Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais dire quelques mots de sa biographie. Il est né deux semaines plus exactement avant les déclarations de guerre. Il a fait des études de médecine à Strasbourg, externe, interne, chef de clinique des hôpitaux de Strasbourg, spécialiste en gynécologie obstétrique, installé en médecine libérale à Strasbourg. Et puis, à partir de janvier 1993, il s'arrête. En aparté, j'ai compris. En janvier, 73. Il quitte en 99.
Je quitte Strasbourg, oui. Mais j'ai continué à exercer en faisant des remplacements.
Voilà. D'accord. Bon, voilà les premières erreurs. Mais c'est pas très grave. Bon, il a eu plusieurs fonctions, que ce soit au niveau syndicat, au niveau du syndicat national, syndicat des médecins de cliniques privées, rédacteur en chef de Mediclinique Info. J'ai correspondant Sud-Ouest actuellement pour la région de Pauillac.
C'est également
pendant un an et demi, c'est arrêté tout ça, mais il maintient son activité et il s'arrête pas de travailler. Alors, quand il m'a demandé ça, ben, il m'a offert son livre, bien sûr, que j'ai lu. Et j'ai râlé un petit peu au début, puis j'étais passionné par ce livre qui m'a pris mes vacances d'hiver entre le ski et la lecture. Et vraiment un livre passionnant. Les premières pages, on entend, quand dans son histoire, il fait partie d'un chef de gang, d'une bande où le chef de gang s'appelle Albert. Alors, est-ce que mon prénom n'a pas attiré, je m'appelle aussi Albert, donc ça n'a pas été une petite... il n'a pas cherché un Albert, j'en sais rien. En attendant, c'est un livre, un récit de souvenirs d'un enfant de 4 ans assez surprenant. On va lui demander un petit peu de nous raconter tout ça. Mais auparavant... j'ai été surpris dans l'introduction, dans les quelques pages, il nous fait une description remarquable, d'un vieillissement qu'il n'accepte pas, mais et avec une forte angoisse. Alors, pourquoi avoir démarré sur François Wolff, sur cette description d'une anatomie du vieillissement, mais parfaite, remarquable et angoissante en même temps. Moi, j'ai eu ça, je me suis vu un peu... D'abord, au début, juste avant de parler de votre livre et de ses souvenirs d'un enfant de 4 ans, qu'est-ce qui a fait que...
Ben, écoutez, tout simplement parce que ça a été un point très important qui a été, l'étincelle de départ de l'écriture, c'est que j'ai été surpris par la maladie et que cette maladie m'a provoqué un vieillissement rapide qui, effectivement, avec le retour à la santé, il n'y a peut-être pas eu un rajeunissement, mais une stabilisation. Alors, je voulais dire que ceci était important puisque ça m'a poussé à l'écriture, que ça a été le facteur déclenchant et que je tenais quand même à dire que la maladie, la vision de la mort est quand même pour beaucoup un point important d'ancrage et de réflexion et qu'on ne peut pas rester indifférent à cette épreuve. Les souvenirs, d'une part, ils vont du départ, de ma naissance, à 6 ans. Alors, vous vous êtes bien souvenu de mes 4 ans, mais ça va de la naissance, puisque, effectivement, je démarre sur ma naissance. Il faut dire que je ne peux pas avoir la mémoire des faits de cette première période. C'est essentiellement quelques... lumière et surtout le récit des témoins de mon entourage, de ma famille, de ma mère, de ma grand-mère, qui me permettent de m'accrocher à cette période qui automatiquement est un peu romancée. Le deuxième facteur qui est extrêmement important dans cette histoire, c'est que ma mère est décédée en 1993 et ma sœur, mon épouse et moi-même avons eu un peu la douloureuse mission de vider son appartement après son décès. Et nous sommes tombés sur un sac que je vois encore devant moi, qui est une besace comme les films récents qu'on passe à la télé, en particulier sur cette période 40-45, une besace en cuir rouge, tout à fait typique de l'époque, était dans ses affaires et elle contenait toutes les lettres que mon père lui avait adressées entre 1939 et 1940, fin 44, puisqu'après il n'y avait plus de possibilité de liaison, d'abord du front et ensuite des différents stalags, des différents camps de prisonniers où il a été retenu. Ça a permis de faire, comment dirais-je, un calendrier, ça m'a permis de mettre en ordre toute l'histoire de ma vie. Donc, après cet épisode de description de déchéance, ma naissance, il faut bien dire que j'ai tenu à la décrire parce que la manière dont on naissait en 1939 n'a pas grand-chose à voir avec l'image d'une naissance dans une salle d'accouchement en 2010 ou 11. Et il y a vraiment énormément de différences, rien que, par exemple, les médecins qui venaient en chaussures de ville, qui avaient leur cravate et qui mettaient un grand tablier en caoutchouc pour assister. Il y a peut-être un point qui est encore commun à ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est que les sages-femmes ont peut-être tendance à, comment dirais-je, à oublier, entre guillemets, d'appeler le gynécologue traitant. Et elles trouvent souvent que si le médecin fait l'accouchement, on le leur vole. Là, c'était encore beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. La guerre est survenue 15 jours après. Il y a donc un climat de panique qui est installé. Je décris un petit peu tout ce qu'il y a eu, puisque comme juif, j'ai eu une circoncision au 8e jour. Je vous rappelle simplement que le juif le plus célèbre, Jésus, a eu cette circoncision, et très longtemps, le 1er janvier, était la Saint-Prépuce. Donc après cette circoncision, 8 jours après, on est parti. On a échappé à l'évacuation qu'a eu à faire toute la population qui longeait le Rhin sur ordre du gouvernement. Ils ont eu des trains, avec parfois même aussi des wagons à bestiaux, qui les ont transportés pour la plupart dans le sud-ouest, beaucoup dans le Périgord. Et donc mon père a préféré nous transporter à Elbeuf parce qu'il avait il travaillait pour une entreprise d'Elbeuf et il avait des gens qu'il connaissait. Cet endroit n'a pas plu ni à ma mère ni à ma grand-mère et dès octobre-novembre nous étions à Marseille et nous avons tous vécu à Marseille de fin 39 jusqu'à fin 42, c'est-à-dire juste avant la destruction du Vieux-Port. Je décris un peu ma vie. Il faut bien voir qu'un enfant, surtout de quelques mois jusqu'à jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, ne peut pas avoir de souvenirs et de perceptions. Mais entre les jeux, ma mère m'amenait ou à la mer ou en automne-hiver dans un des parcs, surtout au parc Borély, pour ceux qui connaissent Marseille. J'étais quand même frappé parce que dans l'immeuble où nous habitions, il y avait beaucoup de juifs réfugiés d'Alsace et de Lorraine. Et il faut dire que l'apparition du statut des juifs, les nouvelles que l'on apprenait introduisaient un climat d'inquiétude et de méfiance. Et dès que les enfants étaient autour, tous les chuchotements, tous les bruits disparaissaient. Mais cette espèce d'inquiétude, comme enfant, on la ressent. Ensuite, donc, il y avait dans cet immeuble, il y avait le frère de Marcel Dassault, qui était le général Bloch Dassault, qui a été victime du statut des Juifs. Il a perdu Il était au ministère de la guerre, il a perdu tout son statut et il était réfugié comme nous, mais il avait encore beaucoup de connaissances et de gens qui l'informaient. Il était en contact avec les premiers mouvements de résistance. Et donc, fin 42, il a conseillé fortement à ma mère de quitter Marseille parce que les bruits qu'il y avait étaient plutôt mauvais. Et ça s'est révélé puisque en janvier 43, il y a eu la destruction du Vieux-Port et il y a eu la rafle de Marseille. Donc, il avait bien raison. Après des hésitations, la famille est partie dans l'Ain, dans un village qui s'appelle Coligny.
Votre père ne vous accompagnait pas là, puisque lui...
Mon père, j'allais le dire, père était une présence totalement abstraite, puisque ça n'était que ses lettres. Je voyais aussi, on avait quelques photos qu'il envoyait, mais il n'y avait absolument... il n'était jamais présent, c'était quelqu'un d'abstrait. On me disait de penser à mon père, on me disait qu'il m'aimait beaucoup, mais je dois avouer que pour un enfant, une photo ou une présence ou la lecture de certains passages de lettres, ben, ça n'est pas grand-chose. Mais je n'avais pas vraiment conscience. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait... 2 millions de prisonniers de guerre et que beaucoup d'enfants étaient privés de leur père pendant toute cette période. Donc, pas de père, que des lettres. Si vous voulez, j'y reviendrai sur ces lettres parce qu'elles ont un caractère très particulier, en ce sens que les lettres qui étaient dans la première partie du front, eh bien, mon père était un Français moyen qui croyait encore jusqu'à juin 40, que les armées françaises ne pouvaient pas être battues et qu'elles allaient finalement à la victoire. Il y avait une confiance aveugle dans l'état-major, dans les officiers français. Et il ne faut quand même pas oublier que la France avait gagné la guerre de 14-18 et qu'il y avait cette image glorieuse qui restait.
Et non seulement ça, mais vous dites que l'ensemble, qu'il y avait un aveuglement global de l'ensemble des Juifs de France par rapport vis-à-vis de la politique de Vichy.
Totalement. Il y avait déjà avant-guerre, il faut savoir qu'il y avait eu une vague d'émigration qui venait d'Europe centrale, essentiellement Pologne, mais également Russie et les autres pays, Moldavie, etc., qui étaient venus en France. Et les Juifs d'origine française, à l'époque il n'y avait finalement que 3 foyers de Juifs français, c'était l'Alsace-Lorraine, c'était le comtat vénessin et les Juifs du Pape et la région de Bordeaux-Bayonne. Et c'est ça, les Juifs portugais, tout à fait, chocolatiers. Et cela voyait d'un très mauvais œil l'arrivée de ces Juifs qui souvent étaient soit plutôt communistes ou très socialistes ou alors très religieux. Et donc, ils avaient d'autres habitudes, d'autres manières de parler. Et un intellectuel juif de vieille souche française, comme on disait, Emmanuel Berl, parlait de la vague d'envahisseurs ashkenazes en 1938. Donc, là, il faut bien se rendre compte que les Juifs français, au moment du statut des Juifs, pensaient que ce statut des Juifs n'était que destiné aux Juifs étrangers et absolument pas aux Juifs d'origine française. Et toutes les différentes mesures qui étaient dans le statut des Juifs, et on sait tout récemment que le rôle important du maréchal Pétain eh bien, ils ne croyaient pas que ça allait s'appliquer à eux. Il y avait une espèce d'insouciance. Il y avait même une confiance aveugle dans le maréchal Pétain. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller la veille de la fête du Grand Pardon, donc de Kippour, à Vichy à un congrès. Et je suis resté pour passer le Kippour à Vichy. Je suis allé à la synagogue, à une plaque qui fait à peu près la longueur de ce mur, où il y a des noms de tous les déportés de Vichy et des environs. Et je dois dire que les trois quarts de ces noms, ce sont des noms tout à fait typiques de l'Alsace ou de la Lorraine, c'est-à-dire qu'ils s'étaient allés tout à fait en confiance se mettre sous la protection du maréchal. Toute la France était pour le maréchal jusqu'en 1900, finalement jusqu'à Stalingrad, qui a été et l'introduction du service du travail obligatoire. Donc, nous étions à ce moment-là, plus à Marseille, nous étions à Coligny. Là, j'ai fait comme tous les enfants du pays, bien que dans une campagne, un enfant qui vient de Marseille avec un accent de Marseille surprenait, et on se moquait quand même pas mal de moi. J'ai eu pas mal de difficultés à m'introduire dans les bandes qui étaient constituées. Vous parlez de la bande d'Albert, c'est-à-dire que c'était des bandes concurrentes, comme un petit peu le monde de la guerre des boutons. C'est tout à fait ça, et il y avait une initiation, il fallait les introduire. Et je vivais donc, dans une insouciance. Mais il y avait quand même un certain nombre de points, surtout que je devenais un plus grand garçon, et donc j'étais plus conscient d'un certain nombre de choses. Il y avait quand même... par exemple, il y avait une grande tante qui habitait avec nous et qui était une femme très religieuse. Il y avait certaines choses qu'elle ne mangeait pas. Elle se mettait dans un coin pour prier deux fois par jour et en marmonnant des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et d'un autre côté, ma mère voulait que je raconte à tout le monde que nous sommes protestants, puisque c'est un village où il n'y avait que des catholiques, pour expliquer que nous n'allions pas à l'église. Je passe un petit peu à fin 43. Le curé du village est venu voir ma mère et lui a dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs dans le village parce que nous n'allions pas à l'église et que pour eux, nous étions juifs. Et il a conseillé à ma mère que je devienne enfant de cœur pour faire taire un petit peu toutes ces mauvaises langues. Donc j'ai été enfant de cœur et je dois dire que j'étais quand même assez marqué pour un enfant de 4 ans par le mystère, par le cérémonial de la messe. Et je dois avouer que je n'y étais pas indifférent. Il faut encore se rappeler que c'était la messe en latin. Donc c'était encore plus mystérieux. Le curé, à l'époque, avait le dos tourné, faisait des gestes qui avaient l'air de gestes de magicien. Et là, j'ai un souvenir de mon fils qui en a été marqué à Padoue. Et, mais enfin, ceci a permis que nous arrivions jusqu'à la libération. L'arrivée des Américains ne s'est pas fait simplement. Avant... nous avons dû quitter Coligny parce qu'il y avait beaucoup de mouvements de résistance. C'était des maquisards qui faisaient partie des FTP, francs-tireurs partisans, et qui ont attaqué les Allemands. Il y avait des attentats, il y avait des rails qui sautaient, parce que c'était une ligne très importante pour les Allemands pour remonter vers l'Allemagne. Et nous avons quitté Coligny pour quelques jours, sur le conseil des FTP d'ailleurs. Nous sommes allés à Vonnaz, qui est aujourd'hui un lieu très connu, puisque c'est un des trois étoiles les plus célèbres, celui de Georges Blanc. À l'époque, c'était sa grand-mère, la mère Blanc, qui tenait l'hôtel-restaurant. Nous sommes allés nous réfugier, parce que ma grand-mère était une gourmande et qu'il fallait, même s'il... On devait quitter, il fallait garder un certain nombre de prérogatives. Donc nous étions là et il y a eu un attentat à Vonnaz contre un officier allemand. La bourgade a été encerclée par les milices qui étaient commandées par des gens de la Gestapo. Et nous avons été cachés par la famille Blanc. Mais la cachette n'était pas suffisamment bonne. Nous avons été débusqués par les miliciens. Et les miliciens ont tout de suite dit que nous étions juifs et nous étions déjà emmenés vers un camion pour être embarqués, probablement pour Drancy et donc pour le dernier convoi qui allait aller à Auschwitz. Et là, un éclair de génie de ma mère, elle s'est précipitée vers un officier de la Gestapo et lui a dit « Nous ne sommes pas juifs, d'ailleurs je suis né à Tanga ». Et le miracle, c'est que cet officier de la Gestapo était lui-même né à Tanga et qui s'est tourné vers les miliciens en disant « Sud-Ostafrika, war Judenfrei », c'est-à-dire « Il n'y avait pas de juifs dans cette région ». Et nous avons été libérés, nous sommes partis sans demander plus et nous avons regagné Coligny. Donc j'ai un paradoxe, c'est que j'allais être déporté par des miliciens avec ma famille et j'ai été libéré par un SS. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui peuvent en dire autant. Ensuite, il y a eu la libération, l'arrivée des Américains, c'était superbe, c'était des militaires bien habillés qui avaient des uniformes formidables, des camions, des jeeps, et tout ceci était admirable. Et peu de temps après, un officier américain juif avait appris que nous avions une grande salle au rez-de-chaussée, là où nous habitions. C'était un ancien café. Et il a demandé s'il pouvait tenir le Nouvel An juif, le Rosh Hashanah, dans cet endroit, avec les juifs américains qui étaient sous ses ordres. Et donc, après la messe, j'ai passé directement à la pratique juive, donc, puisque le Rosh Hashanah est un des plus grands moments de l'année, et on a eu donc cette fête. Huit jours après, il y a le grand pardon, et là, les juifs de la région sont venus à nouveau chez nous, et le Kippour a eu lieu. J'ai vu à ce moment-là toute la famille, ma mère, ma grand-mère et la grande-tante jeûner. Je ne comprenais pas très bien pourquoi, mais j'ai été, je dois dire, tout aussi impressionné par la mystique juive, si je puis dire, que par la mystique chrétienne que j'avais connue peu de temps avant. Après, il faut dire que l'Allemagne a été quand même fortement endommagée. Les lignes de chemin de fer ont été bombardées et les lettres ne parvenaient plus. On n'avait plus de nouvelles de mon père. Et un beau jour, un coup de téléphone, c'était après le 8 mai, mon père est libéré et il va venir à Coligny pour nous rejoindre. Ma mère est allée le chercher à Bourg-en-Bresse et moi je jouais dans une grange et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut me saisir dans ses bras et c'est mon père. Mais pour moi, mon père, d'après les photos, c'était un héros, un homme grand, un homme dans un uniforme superbe, étincelant comme les soldats américains. Et malheureusement, il avait eu 5 jours de voyage dans des conditions difficiles où il n'avait pas pu se laver, pas pu se raser. J'ai eu un homme qui sentait assez fort, qui me serrait dans les bras, qui piquait, et je l'ai repoussé. Parce que je ne l'avais pas reconnu et je dois dire que c'était une occasion manquée et qui m'a marqué très fortement par la suite, ce d'autant qu'elle a marqué aussi mon père et que nous n'avons pu vraiment communiquer et nous rejoindre qu'après sa propre maladie et les 3 dernières années de sa vie. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Voilà un petit peu le résumé de ce livre. Et je voulais dire que les lettres de mon père étaient émouvantes, mais d'un autre côté, il ne disait jamais quelles angoisses qu'il avait, parce que la censure aurait pu se rendre compte qu'il avait peur parce que nous étions juifs, et qu'il fallait surtout pas que ça sache. Lui, il était d'une certaine manière plus protégé que nous, puisqu'il était prisonnier de guerre et que la Convention de Genève donnait des conditions très précises de la captivité. Et que de ce fait, les Juifs qui ont été prisonniers de guerre ont pour la plupart eu aucune conséquence pendant la guerre, alors qu'il y a eu 70 000 déportés dans la communauté juive de France. Donc, il était angoissé, ce d'autant qu'un de ces stalags où il a été prisonnier, il y avait été presque en Pologne, et il voyait des convois de déportés qui passaient à côté du camp, et qu'il a même eu une fois un message qui a été envoyé en français. C'était donc un convoi qui partait de France, et je peux vous dire qu'il a eu plusieurs jours et plusieurs nuits difficiles. Il pouvait imaginer que sa femme, son fils, était dans un de ces trains. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. J'ai terminé mon livre par des annexes. Ces annexes sont non pas l'histoire de la Seconde Guerre. Je ne vais pas répéter le mot de malheureux du détail. Mais c'est un petit peu une approche sur, d'une part, la Shoah, mais d'autre part aussi, j'ai accentué les choses sur le sort des Juifs français, sur la résistance française et également la relation avec les intellectuels, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé, beaucoup de livres sont sortis sur l'attitude des intellectuels français, en particulier pendant la guerre, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné, ceux qui ont été collaborateurs, les plus rares qui ont été résistants, et la plupart qui ont été sinon indifférents, du moins ont continué de vivre sans trop chercher à réfléchir sur ce qui se passait. J'ai beaucoup de citations dans ces annexes de gens divers, en particulier des poètes. C'est la raison pour laquelle j'ai ce titre un petit peu, puisque si venait au monde un homme, c'est un vers de Paul Celan, qui à mes yeux est un des plus grands poètes du XXe siècle, et en même temps, c'est un rappel de mon ancien métier. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est pour ça que je l'ai choisi.
Merci, François. Là, je vais parler un petit peu en tant que lecteur d'un livre qui, bien écrit, simplement écrit, avec où l'on voit transparaître une culture extraordinaire, parce que François Wolff cite vraiment pratiquement tous les philosophes, tous les grands hommes, Roland Barthes, Marguerite Yourcenar, Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas, Colette, etc., etc. Et j'ai été surpris à la lecture de ce livre, du détail et de la maturité, et certain que c'est un homme pas d'un certain âge qui a écrit ce livre, mais quand même ce rappel d'un enfant de 4 à 6 ans, moi je veux bien me rappeler, mais je n'arriverai pas à écrire tout ça. Alors, comment ça vous est venu, ce détail? Est-ce que c'est les lettres de votre père qui vous a fait rappeler ce détail du jeu, et pas sur une page, sur, j'allais dire, sous toute une histoire, au quotidien, pendant quelques années? Moi, j'étais un petit peu étonné. Alors, d'abord, comment ça s'est passé, cette réflexion, mise en
entre page. 4 et 6 ans, je veux dire, on a déjà une faculté de mémoire un peu plus importante qu'à 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il y a effectivement cette histoire de bande en particulier. M'avait beaucoup marqué parce que j'étais avant à Marseille où tout ceci n'existait pas et je ne l'ai plus connu après quand je suis revenu à Strasbourg en 1945. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué et en plus, il fallait bien un petit peu l'étoffer et laissé aller un peu mon écriture et mon imagination.
Mais on a l'impression que les faits sont réels, que tous. Mais je suis content d'entendre qu'il y a aussi de l'imagination. D'accord, merci. Dans la lecture de ce récit, de temps en temps et régulièrement, il y a un retour à une réalité brutale. Est-ce que c'est volontaire? Par exemple, page là, vous dites, dans mon état actuel, vous parlez, c'est le récit, l'histoire, et on revient au temps présent.
Ben, c'est une volonté parce que je vous rappelle qu'au départ de l'écriture, il y a eu cette expérience proche de la mort. Et quand j'ai écrit, il y a eu quand même des moments difficiles. Et ces moments difficiles, j'ai tenu à les rappeler dans le cours du récit, c'est-à-dire que pendant quelques jours, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire parce que je n'étais pas dans un état physique qui était tout à fait idéal. Donc, j'ai bien montré la progression. L'écriture a été pour moi une sorte de rédemption. C'est pour ça que mon dernier chapitre s'appelle « Le second souffle », puisque lorsque j'ai terminé mon devoir de mémoire, eh bien, j'étais déjà sur la voie de la guérison.
Merci. Je voyais, lors de la lecture, toujours, page 96, vous interrogiez, vous en avez parlé un petit peu, mais sur qu'est-ce que être juif ? Et je vais failli dire, puisque c'est une question d'actualité qui revient sans cesse pour le peuple juif et pour tout juif que nous sommes, qu'est-ce que, d'après vous, être juif ?
Ben, je dois dire que ça, pour moi, ça n'est certainement pas une religion parce que je suis athée, mais c'est une sensibilité, c'est un héritage, c'est une volonté à la fois de comprendre et l'autre et soi-même, c'est une volonté de découvrir et en permanence à la fois son histoire, à la fois ses penseurs. Et on a une lecture des événements qui est plus bouleversante et plus engagée que beaucoup d'autres gens qu'on rencontre tous les jours. J'en prends pour preuve l'histoire dont nous avons discuté au début, qui est les événements récents de Tunisie. Qui m'ont littéralement bouleversé parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose de fantastique et que ça devait être un élément de réflexion pour les Juifs et les Palestiniens aussi. Donc c'est ça être juif, c'est cette espèce de sensibilité et surtout le fait de savoir qu'on n'est pas comme ça arrivé sur Terre, brutalement, sans aucune attache ni aucune histoire. L'histoire juive remonte à la nuit des temps. Je vous ai raconté l'histoire du Kaddish.
Tout à fait.
Et le Kaddish est cette prière que l'on dit lorsqu'on est en deuil. Et en particulier, on l'a dit devant la tombe de son père ou de sa mère.
Et qui est un hymne à la vie, contrairement...
Oui, tout à fait. Mais il remonte à la nuit des temps. C'est un très, très vieux texte. Et donc, quand on le dit, on voit la chaîne des générations qui se sont succédées et qui l'ont dit. Et je dois dire que le simple fait d'avoir cette chaîne de générations, c'est pas anodin. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux, comme vis-à-vis du monde. Voilà ce que c'est qu'être juif.
D'accord, pour vous, mais ce n'est pas forcément spécifique dans la description que vous le dites, il me semble. Alors moi, je vous dis en quelques mots, je ne dis pas que je la détiens, mais être juif, ça, vous dites que ce n'est pas être religieux, ça n'est pas être que religieux.
Que religieux.
J'ai rajouté ça.
Comme je l'avais
c'est
dit.
Effectivement, oui, vous avez dit que ce n'est pas être religieux, mais d'accord. Et c'est vrai que c'est appartenance à un peuple, c'est une entité. Une identité, c'est une culture, c'est une cuisine, c'est tout un ensemble de choses et toute cette sensibilité que vous avez dit. Mais effectivement, d'après ce que vous nous dites, on peut être juif sans être juif. entre guillemets.
Tout à fait, oui.
D'accord. Je vais avancer dans les quelques pages parce que c'est sûr, et je répète que j'ai été passionné et que je rentrais pressé du ski pour aller m'asseoir avec les petits-enfants qui vous talonnent, mais j'avais envie de continuer cet ouvrage. Alors, j'ai eu l'impression, on parlait tout à l'heure que le prénom de votre père, c'était Joseph, comme celui de votre fils. Moi, je le voyais, qu'il y avait un autre Joseph dans le livre. Et dans votre histoire, moi, j'avais l'impression d'une concurrence. Quand vous parlez de ce Joseph qui venait, qu'il y avait une concurrence par rapport à votre mère entre ce Joseph et votre père. Et puis vous dites, tu verras la différence entre nous deux.
Ça, c'est ce que dit mon père dans une de ses lettres.
D'accord, tout à fait. C'est ce que dit votre père. Comme si votre mère devait choisir.
Dans mon livre, les rares fois où j'ai donné un nom à mon père, je lui ai donné son second prénom qui était Georges.
D'accord.
Mais il avait un ami qui s'appelait Joseph Lévy, qui était prisonnier de guerre avec lui et qui a été réformé, c'est-à-dire que pour raison de santé, il a pu rentrer. Et il a pu rentrer avant la fin de la guerre. Et donc, mon père avait beaucoup aidé à son rapatriement. Et ma mère en voulait beaucoup à mon père, qu'il ait facilité le retour de ce Joseph Lévy et qu'il n'ait rien fait pour lui, alors qu'il faut quand même dire que mon père a essayé de s'échapper 3 fois, qu'il a été repris. Et en particulier, il a été repris par des gendarmes français qui n'ont rien trouvé de mieux que de le remettre aux autorités allemandes.
Tout à fait, d'accord. Je vais avancer et puis vous parler effectivement dans une espèce, pas d'ambiguïté, à la page 108, vous parlez d'un arbre de Noël et vous dites, il était là et c'était pour les gens du dehors, pour qu'ils croient que nous sommes chrétiens comme eux. Et la transposition, effectivement, nous aussi, lors de la fête des Lumières, à Hanouka, nous mettons c'est un chandelier à 9 branches qui s'allume devant une fenêtre pour montrer aussi aux gens que nous sommes juifs. Alors, ça vous a, je trouve, vous avez pensé aux deux ou...
Non, pas du tout.
Vous avez fait ça que pour l'arbre de Noël, pour...
Voilà.
Il fallait montrer que nous étions chrétiens comme eux. D'accord. Et effectivement, je revois aussi un retour à cette page avec un pessimisme angoissant. Retour au présent. Ce retour, moi, m'a un peu pas angoissé. Et j'allais dire, on sentait presque si la fin allait arriver rapidement. Vous étiez là, un problème de maladie qui revenait. C'est ce qui nous semble que vous n'ayez pas duré.
C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, je dois avouer que je n'étais pas dans une situation qui était très brillante. Et il y avait des petits hauts et il y avait aussi des bas. Et pendant les bas, j'avais peur de ne pas arriver à la fin de ce travail.
D'accord. Bon, alors donc, votre angoisse, elle transparaît et elle est bien ressentie, du moins par moi. Alors, le statut de votre père, il était prisonnier des Allemands, puis tout le long du livre, il avait un emploi chez un épicier ou je ne sais pas.
À la fin,
mais on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'arrivait pas à s'échapper et à partir. Alors qu'il était libre, il rentrait parfois à la caserne, toute la semaine il restait là. C'est sûr qu'il s'était fait prendre une première fois lorsqu'il a essayé de partir, de s'évader. Et là, pendant un certain temps, pendant 1 an, 2 ans, vous aviez 4 ans et demi à cette époque-là, et on ne comprend pas tout à fait dans le livre pourquoi il ne s'est pas à nouveau échappé alors qu'il semblait qu'il avait la possibilité.
D'abord, il s'est échappé plusieurs fois, mais là, il ne l'a plus, parce qu'il y avait un échange de lettres entre ma mère, que les lettres de ma mère, je ne les ai pas, et qui lui recommandait d'être prudent et d'attendre la fin de la guerre. Il ne faut pas oublier que c'était 44, il y avait déjà des signes de la fin de l'aigle allemand, et donc elle lui recommandait la prudence. Et d'un autre côté, on ne s'échappe pas comme ça, il faut des vêtements civils, il faut des papiers, et il n'avait pas ces différents éléments pour pouvoir vraiment organiser. Il parlait parfaitement l'allemand, donc s'il avait des papiers et des vêtements civils, il pouvait traverser l'Allemagne. Mais sans vêtements civils et sans papiers, c'était... sauf dans des films américains ou autres, mais dans la réalité, il fallait quand même...
Mais il est certain qu'un lecteur français moyen, quand on lit ça, on n'arrive pas à imaginer la souffrance, la dureté de cette époque. Et on a du mal à se mettre à sa place. On se dit, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne fait rien? C'est mon sentiment que j'ai en lisant ce livre.
Pourquoi est-ce que tant de Français qui n'ont pas bougé, qui n'étaient pas prisonniers?
Tout à fait. Oui, mais lui, il vivait, il était assez libre. C'est dans ce sens. Mais
là, c'est-à-dire qu'il était sous-officier. Il aurait pu, s'il avait voulu, ne rien faire du tout et rester au camp. Mais il tenait à pouvoir sortir, donc faire partie de commandos de travail. Et c'est comme ça qu'il sortait. Et quand il était dans l'épicerie, en plus, il faut bien voir qu'une des préoccupations essentielles de toutes les populations d'Europe, français, allemands et autres, c'était manger.
Tout à fait, c'était manger.
Et que là, dans l'épicerie, en gros,
Est-ce qu'on savait qu'il était juif ?
Non,
pas du tout. Personne, il n'était pas reconnu en tant que juif. Il était pris et prisonnier en tant que militaire français.
Il avait un nom qui n'était pas totalement typique, quoi.
D'accord. Je redis, j'étais un petit peu vraiment. Je crois que ce livre mérite. Je vous l'ai dit par téléphone. Je suis surpris de la facilité, de l'intérêt. Et c'est sûr que ce paragraphe, ce second souffle, où vous mettez en cause au niveau vraiment des choses difficiles, et de reprendre, je suis atterré par la faculté d'oubli de mes contemporains, que les massacres d'agraires n'aient aucune leçon, aucune répercussion, et que ça recommence, on en a parlé tout à l'heure, et ainsi de suite. C'est d'une réalité, d'un réalisme assez angoissant quand même, parce que c'est... On est dans ce monde où l'on vit, et vous le sentez encore, malgré tout, et un monde un peu hypocrite, où le politiquement correct est admis, et que dès que vous dites les vérités, tout à fait, on vous tape dessus, parce qu'il faut, il faut bien paraître, il faut bien dire, il faut parler comme on doit, et non pas comme il faut. Quand on prend de l'âge, je crois qu'on est un peu révolté par cet état de fait. Mais je ne sais pas si vous le sentez comme ça.
Je dois dire que la révolte a été quelque chose qui m'a animé toute ma vie. Serge Larue-Charlus, qui me connaît depuis longtemps, sait que j'ai toujours été animé de la révolte et d'un sentiment de justice, quoi. Donc, ce n'est pas spécifique à l'âge. Au contraire, je crois que la faculté de se révolter est une manière de vivre et de survivre.
Tout à fait. Sachez que ce livre et que François Wolff a écrit lorsque, effectivement, depuis sa naissance, son père est parti prisonnier très vite et il n'a vécu qu'avec 4 femmes, dont une très religieuse qui c'était sa tante ou tata. Vous l'appelez tata parce que c'était votre tante ?
C'est très compliqué. C'était la grande tante de ma grand-mère, pour vous dire que c'était vraiment une vieille dame.
Comme petite très religieuse.
Fille, comme petite fille, elle avait été choisie dans son école pour remettre un bouquet de fleurs à l'empereur Napoléon III.
Et je remercie François Wolff pour son livre qui est passionnant, un récit passionnant, avec
Merci
un témoignage.
En tout cas.
Non, je le dis comme je l'ai lu et comme je l'ai vécu. Je voulais à tout prix le finir et à la fin, c'est sûr, François Wolff parle d'annexes avec une historique, avec une chronologie remarquable. Vraiment, je trouve un livre qui devrait faire plus de bruit. Merci encore, merci à vous.